Bien, ben, merci beaucoup Vincent donc, pour la parole. Et donc, moi, ce que je me suis fixé un petit peu comme tâche pour cet après-midi, pour avancer avec vous sur ce début d'analyse de l'œuvre d'Éric Duvivier, c'est de vous parler des films que j'ai retitulés De cardiologie. Vous verrez que le De cardiologie, ce n'est pas le titre que donne Éric Duvivier à ses films dans son catalogue au fur et à mesure. Et on reviendra sur la question pourquoi j'intitule ça De cardiologie, pourquoi ça s'appelle Cœur et vaisseau dans le cadre des films d'Éric Duvivier. Alors, je vous ai mis deux petites images pour l'introduction et pour la mise en route. Vous avez à gauche une image qui est tirée d'un des films qui représente Théophile Lainec, donc l'un de ces médecins qui sont devenus un petit peu à la fois une icône et une représentation de la profession dans son auto-écriture de sa propre histoire. Et donc, c'est évidemment, lorsqu'on fait un film d'enseignement sur un sujet, une entrée classique. Hein, quand on regarde les films de l'entre-deux-guerres, quand on regarde les films de la période du CNDP, par exemple, c'est souvent qu'un film sur un sujet Cœur et vaisseau va commencer avec un ancêtre historique qui est aussi une manière de mobiliser tout de suite une espèce d'espace commun de la profession ou d'une sous-partie de la profession. On reviendra là-dessus. Alors, de l'autre côté, je vous ai mis un petit croquis. Alors, un petit croquis, pourquoi? Tout simplement pour tout de suite vous avertir que s'il y a une chose qui m'a frappé dans la liste de 121 films Cœur et vaisseau produits dans l'œuvre d'Éric Duvivier, que je pense que s'il fallait retenir qu'un seul élément, un seul trait, c'est probablement la place et la qualité de l'animation, du dessin animé, des schémas dans le cadre de ces films-là. Et je vous ai tiré un plan, donc c'est un plan complet, je n'ai pas fait de découpe, ce qui vous montre aussi tout de suite, ce qui fait un peu lien avec la question que Thierry a posée ce matin, c'est-à-dire le cœur n'y est pas immédiatement et absolument identifiable en tant que tel. Donc on voit que sur cette animation-là, il me semble qu'on peut y lire une vraie recherche esthétique sur comment représenter les choses et pas juste par un schéma qui est fonctionnel, mais qui garde toujours ce côté d'une vraie recherche esthétique, d'une vraie recherche de suite de plans de séquences, etc. Et c'est peut-être le lien qu'on va essayer de faire entre la partie d'Éric Duvivier dont il sera question un peu par après, et surtout à Nancy en février, c'est-à-dire le film d'auteur d'une certaine manière, c'est-à-dire cette partie de son œuvre qui fait que c'est d'abord un film. Et ce que Peggy a dit ce matin sur le nombre d'utilisations relativement récentes d'œuvres d'Éric Duvivier. On peut y rajouter un festival à San Francisco, Hot Balls, où il y a aussi un film qui est passé l'année dernière, je crois. Donc on voit qu'il y a un petit frémissement comme ça de reprise de ces films, mais précisément des films qui, à mon sens, ne sont pas le cœur de l'œuvre des 700 films d'Éric Duvivier. C'est les quelques moments où il a pu s'aménager un espace de liberté, de créativité, parce que tout le reste existait d'une certaine manière. Vous me corrigez si c'est faux ce que je dis, mais en tout cas, c'est l'interprétation que j'en ai, c'est la lecture que j'en fais. Et alors, ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que je pense que ça, c'est globalement vrai pour l'ensemble de l'œuvre. Donc il y a une partie film expérimental, film d'auteur, film avec une recherche d'abord sur la construction du film, où on peut à la limite s'étonner que ça soit fait dans un cadre d'une cinémathèque Sandoz, donc dans le cadre de ce que j'ai appelé ce matin vaguement le film industriel. Et je pense qu'on n'est pas tout à fait à côté quand on le dit, même si la structure qu'Éric Duvivier a mis en place, justement, ménage un espace de liberté par rapport à une commande qui serait très contraignante et très ferme. Mais même dans un corpus que je vais vous détailler plus en détail, qui est le corpus donc autour des films Cœur et vaisseau, Cardiologie, il me semble qu'on peut lire à plusieurs moments précisément cette constance d'attacher une très grande importance à cette partie de faire un vrai film, de faire pas juste de la pédagogie par le film. C'est-à-dire, si ça fonctionne, c'est parce que le film fonctionne. Et il a un vrai message, ça c'est un deuxième point, mais c'est bien, et c'est là que je retrouve pleinement l'idée de la journée d'aujourd'hui, la rentrée par une société de production, un réalisateur, c'est-à-dire l'idée que il y a plus dans ce corpus d'Éric Duvivier que un film d'enseignement, comme on aurait pu le faire, à part qui porte à quel moment, etc. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous démontrer un tout petit peu, très brièvement. Donc, en guise d'introduction, j'avais encore prévu de vous dire que la journée d'aujourd'hui est dédiée à des études... Bon, les journées fumées de films, en général, sont dédiées à l'étude du film médical. Et la journée d'aujourd'hui est particulière parce qu'il me semble qu'on a pris une route qui est un peu particulière, qui n'est pas de tout fréquente, même dans le milieu déjà très restreint de ceux qui analysent, qui étudient le film documentaire éphémère, utilitaire, industriel, c'est-à-dire le fait de ne pas rentrer par la commande ou le commanditaire, c'est-à-dire de ne pas faire les films de Sandoz, mais de dire on va rentrer par le producteur, on va rentrer par le réalisateur qui, du coup, pose la question de l'auteur, qui pose, à mon sens, une deuxième question sur laquelle je veux faire une partie un tout petit peu théorique, qui est, si on prend ça au sérieux, je pense qu'il faut penser l'œuvre d'Éric Duvivier, c'est-à-dire le corpus, c'est-à-dire 700 films. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas analyser un film détaillé plus en détail, mais je pense que c'est tout aussi important de raisonner en œuvre complète, en corpus, ce qu'on va essayer de faire. Et il me semble, quand on le fait, il y a trois lignes qui se dégagent qu'on peut poursuivre dans ce domaine-là. Il y a un premier triangle que j'ai appelé le triangle de la production et là tout de suite, je pense que la démarche d'Éric Duvivier est intéressante et particulière parce que ce triangle de production, c'est précisément un triangle où il n'y a pas une commande qui fait qu'on cherche un producteur qui trouve une manière de collaborer avec un référent médical. Mais Éric Duvivier l'a déjà explicité ce matin. Ce qui est très important dans sa démarche, c'est que c'est lui, réalisateur-producteur, qui va chercher un partenariat avec un chercheur ou un médecin qui a quelque chose à dire, qui a envie de faire un film, qui a envie de communiquer de cette manière-là, il va, j'aurais presque envie de dire, se faire tout petit à son côté dans un premier temps pour voir ce qu'il a à dire. Et c'est de là que jaillit ensuite. Donc, j'ai bien mis au départ, sur l'angle qui serait l'angle logique de départ, le référent médical. Et ce référent médical, c'est pas n'importe quel référent médical. Là aussi, on reviendra sur ce que j'appellerais presque un système Éric Duvivier, c'est que il faut que ça soit quand même, si possible, un grand patron. Il faut que ça soit quand même quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose aussi à dire en termes de la deuxième partie, c'est-à-dire si à ce dialogue qui va s'instaurer entre une volonté de faire un film et quelqu'un qui a quelque chose à dire, c'est qu'il faut encore trouver un moyen de financer, parce que ça coûte quand même une certaine somme de faire un film. Et l'idée du grand patron, évidemment, elle va jouer sur la partie de la mobilisation de la commande, et vous me corrigez si je dis des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Et donc, c'est à partir de là, bien un système qui ne fait pas juste que nous rentrons par cet angle-là aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui caractérise la situation, la particularité de l'œuvre d'Éric Duvivier, c'est que c'est bien la boîte de production, c'est bien le producteur, le réalisateur, qui, au fond, tient à la fois ce premier triangle, qui est le triangle de la production. Alors, il y a un deuxième dans la vie des films, c'est que produire, c'est une chose, diffuser, c'est une autre. Et on a vu aujourd'hui, ce matin, que là aussi, il y a un système, Éric Duvivier, d'une certaine manière, un système qui, là, va encore une fois partir d'un référent médical, d'un grand patron, du réalisateur qui produit, mais c'est précisément à partir de là qu'il va y avoir une deuxième structure qui n'est pas science-film. Et c'est vrai que dans l'annonce du programme, il y a un flou, une faute là-dessus que j'ai mieux compris en vous écoutant. C'est qu'il y a une deuxième structure carrément qui va s'occuper de la mise en place, et je pense que c'est fondamental là aussi comprendre que là on ne parle pas du film industriel médical de l'entre-deux-guerres qui existe déjà, même sous forme de film d'enseignement ou de représentation, mais qui souvent en fait est un film de pré-programme, c'est-à-dire qui passe dans un vrai circuit de distribution, mais en amont parce qu'on a des déductions de taxes. Ce que Éric Duvivier va créer et inventer d'une certaine manière, autant qu'il crée et invente ses films, c'est une manière de leur donner une vie de diffusion, c'est-à-dire de mettre en place ce qu'il appelait tout à l'heure, et je trouve l'expression assez admirable, le côté forain. Il y a un côté, on va sillonner avec ça, avec un programme, la France, pour organiser des soirées qui visiblement marchent très bien, mais qui sont totalement en dehors du circuit de diffusion de l'industrie de divertissement, par exemple, et qui ne dépend pas totalement non plus du prêt d'une cinémathèque, quelle qu'elle soit, en milieu industriel. Donc, si on veut faire court, on peut presque dire la force de ce système, c'est peut-être la raison aussi pour laquelle c'est un système qui tient sur l'intégralité de votre carrière, c'est que c'est un système qui vous ménage toujours une certaine autonomie par rapport aux deux autres parties avec lesquelles vous devez composer, parce que c'est le propre de la création de ces films. Mais en même temps, ça reste quelque chose qui garde un champ d'autonomie. Alors, le troisième triangle qui me semble intéressant à déplier sous forme plus théorique autour de ces films, c'est un triangle que j'ai intitulé pour l'instant le triangle du film médical utile ou utilitaire, c'est-à-dire un film, là encore, qui n'est pas un film qui raconte juste une histoire, de divertissement, de drôlerie, etc. Et c'est dans ce cadre-là que se pose la question que pose en général aujourd'hui l'histoire du film documentaire à propos des films industriels, c'est-à-dire si on veut déterminer de quel type de film industriel il s'agit, il faut s'interroger sur l'occasion, pourquoi le film est fait, la commission ou la connaissance qui lui est inhérente et qui est le destinataire. Alors, pour y répondre, on va essayer de regarder de plus près la production d'Éric Duvivier et le contenu de ses films. Et dans un premier temps, on va partir d'une vision très macro pour arriver à trois exemples très concrets de films médicaux. Alors là, je vous ai reproduit ce qu'on trouve de manière régulière, d'ailleurs, dans médecine et cinéma, par exemple, c'est-à-dire le catalogue de science-film qui porte à la connaissance des lecteurs et potentiels acheteurs les films que produit science-film et qui, à ce titre, sont diffusables par une commande. Et donc, vous voyez que, là, j'ai pris la liste numéro 11 d'octobre 1973, mais j'aurais pu prendre la toute dernière de 88, je pense, ça doit être la dernière. Et on voit que dans cette liste, il y a une organisation des films par thématique. Alors, quand on regarde de près, il y a des entrées qui sont relativement classiques, anatomie, biologie, donc ça c'est plutôt les sciences fondamentales, c'est les fondamentalistes dans les CHU de l'époque. Ensuite, on a des vraies spécialités médicales, donc des disciplines, des sous-disciplines de la médecine, la dermatologie, la gastro-entérologie, la gynécologie. Alors, ce n'est pas étonnant qu'on trouve ces spécialités-là, parce que c'est des vieilles spécialités, c'est-à-dire la dermatologie, c'est une branche spécifique de la médecine depuis l'entre-deux-guerres, au moins, si ce n'est pas avant. Et ensuite, on a des catégories divers, films scientifiques, éducation sanitaire africaine. Donc ça, on sent que ça, c'est des pans un peu particuliers sur lesquels je ne reviens pas beaucoup. Et puis, il y a ce qui nous intéresse plus particulièrement, cœur et vaisseau. Alors, la question qui se pose, évidemment, c'est pourquoi ça ne s'appelle pas cardiologie. Ça aurait pu s'appeler cardiologie, comme ça s'appelle dermatologie, etc. Et bon, pour faire très bref, et je vais essayer de vous dérouler l'argument par la suite, je pense que le film d'enseignement, et je reviens sur cette notion-là aussi, que fait Éric Duvivier dans ce cadre-là, va participer précisément à travers quelques grandes figures d'une discipline, d'un champ, d'un domaine, à orienter ce qu'on y fait et ce qu'on n'y fait pas jusqu'à pousser à une spécialisation réelle. Et donc, mon hypothèse à cet endroit-là, ça serait que, en fait, la rubrique cœur et vaisseau a participé ou a accompagné, d'une certaine manière, la constitution propre de la spécialité cardiologie qui voit le jour, à mon sens, dans les années 70-80, autour d'un certain nombre de démarches techniques, notamment l'échographie. Et c'est pas très étonnant qu'on trouve effectivement un certain nombre de films qui adressent précisément ces questions-là. Bien. Avant d'aller plus loin, donc ça, c'est les grandes catégories du film et du catalogue d'Éric Duvivier. Pour revenir un peu en amont, donc si on reprend une grille, non pas celle qui est la grille de réalisateur-acteur de l'époque, c'est-à-dire comment Éric Duvivier organise son catalogue, mais comment les historiens du documentaire industriel aujourd'hui essayent de faire sens du type de film qu'on a pu produire dans le milieu ou en rapport avec l'industrie quelle qu'elle soit, et chez nous, dans ce cas-ci, ça serait évidemment l'industrie pharmaceutique, c'est qu'en général, il y a 5 sous-types de films qui sont identifiés. Il y a le film de représentation, donc c'est un film qui donne une vue d'ensemble d'une entreprise. En gros, c'est un film fait sur une entreprise pharmaceutique. Il y en a quelques-uns dans l'œuvre d'Éric Duvivier de ce type-là. Il y a un film de Servier, par exemple, qui représente ça, à mon sens, un petit peu, un ensemble de l'entreprise en tant que telle. Mais c'est évidemment et très clairement une rareté, une exception dans l'œuvre de la production d'Éric Duvivier. Le deuxième type de film, que j'appelais le film VRP, vendeur représentant pharmaceutique, on aurait pu l'appeler visiteur médical aussi. Donc c'est un film qui présente un produit à des clients potentiels. Donc dans un cas médical, ben, il y a toujours un client intermédiaire qui est le prescripteur. Ou alors c'est du film grand public, mais ça, il n'y en a pas. Et là-dessus, la question est très vite résolue. C'est quelque chose qu'on a évoqué ce matin. Donc c'est quelque chose que Science Film, qui est Éric Duvivier, n'a pas engagé. Je pense que c'était visiblement pour vous une ligne rouge entre collaborer avec le milieu médical et avec des mécènes et faire du film de commande pour une entreprise quelle qu'elle soit, et donc ça tient à cet espace de liberté. Ensuite, troisième type de film qu'on trouve dans les analyses des historiens du film industriel, c'est le film d'éducation et de formation. Donc c'est un film qui est fait pour la formation des uns et des autres, alors ou des ouvriers à l'intérieur de l'usine, ou la profession médicale entre elles. Et donc, pour moi, c'est évident que le corpus que je vais vous présenter, c'est là qu'il se situe. Les deux autres catégories, le film d'exposition et le film de fabrication, c'est plus par souci de complétude, de pouvoir avoir une liste complète du type de film industriel. Mais il est clair que les films d'Éric Duvivier sont des films d'enseignement sous mécénat industriel pour les parties qui me concernent. Donc pour aller un peu plus dans les détails, pour vous montrer un tout petit peu, donc je vous ai dit que la thématique cœur-vaisseau va occuper l'œuvre d'Éric Duvivier de manière significative, c'est entre autres pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Donc sur un ensemble de 600 films de fait, sur le dernier catalogue que j'ai pu consulter, qui date de 1988, il y en a 121 qui figurent dans cette rubrique-là. Donc en gros, on est dans un ratio, un cinquième de la production concerne cette thématique-là. Hein, donc c'est énorme, c'est beaucoup. Visiblement, c'était un milieu assez privilégié, assez ouvert, ou qui répondait bien à une collaboration avec vous. Alors, on va voir par contre, quand on reprend le catalogue plus en détail, qu'il y a des périodes successives. C'est pas homogène. Alors, c'est homogène dans le sens où le nombre de films cœur-vaisseau produits sur l'ensemble des 5 décennies reste à peu près stable. Hein, donc, si on prend un catalogue antérieur, par exemple, de celui qu'on avait de 73 tout à l'heure, on reste dans un ratio, donc on a 56 films sur 300, donc on reste dans un ratio à peu près de 20%. Donc on voit que la production, c'est pas à un moment donné, ça se focalise dessus, après ça redisparaît. C'est vraiment assez cohérent sur l'ensemble. Quand on veut regarder de plus près ce qui figure dans ce catalogue, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un premier ensemble, et c'est la partie haute de la liste, parce que c'est une liste, le catalogue le dit très bien, qui a priori est chronologique, sauf s'il y a des reprises, mais a priori elle est chronologique. Et donc si vous parcourez ne serait-ce que les 5 ou 6 premiers titres, la persistance du canal artériel et sa chirurgie, la péricardie constructive et son traitement chirurgical, anastomose porte-rénale pour traitement des hypertensions portales, c'est encore une opération. On voit que là, je pense, est vrai pour cœur-vaisseau, ce qui est vrai pour l'œuvre dans son ensemble. Il y a un premier démarrage de production de films autour d'un milieu qui serait plutôt la chirurgie, et la chirurgie cardiaque dans ce cas-là. Hein. Par contre, on voit que dans un deuxième temps, les choses vont glisser de cette partie très chirurgicale vers... donc ça, c'est plutôt dans les années 60, 70, vers des thématiques qui concernent davantage des phénomènes et des observations différents. Les crises tachycardiques, donc c'est un tableau clinique de la cardiologie, la maladie coronarienne, donc ça veut dire en clair l'infarctus, c'est pas encore chirurgical non plus, l'électrocardiogramme, exploration des cardiopathies mitrales par échographie et ultrasonore. Faut se rappeler que les ultrasons arrivent dans le milieu cardiologique dans la fin des années 60, début des années 70. Cardiologie, échographie ultrasonore en 72. Donc on voit qu'il y a un glissement thématique de ces films-là vers quelque chose qui est moins chirurgical. Ça ne veut pas dire que le film chirurgical disparaît, mais c'est les cardiologues autour de nouveaux dispositifs de diagnostic, nouveaux traitements qui vont devenir une deuxième entité significative dans les années 70. Et puis, à mon sens, une période post-70 qui est la période cœur et vaisseau, où on revient en fait au titre initial, où il y a de la chirurgie, il y a de la cardiologie telle que je viens de la décrire pour la deuxième période, et il y a de la consultation des films qu'on retrouve régulièrement aussi autour de la relation médecin-malade, de la place de la consultation. Et je vous en montrerai un qui est fait tout à la fin de cette période autour de l'insuffisance veineuse tout à l'heure, qui joue dans un hôpital suisse à Genève et qui, à mon sens, est un film intéressant sur la facture. Donc mon hypothèse à cet endroit-là, ça serait de dire qu'en fait, le film d'Éric Duvivier a accompagné la naissance d'une discipline, d'une spécialité médicale qui s'appelle la cardiologie, en partant de son entrée de départ de la chirurgie jusqu'à la constitution complète de cette spécialité dans les années 60-70 et a fortiori sa reconnaissance pleine après 70. Alors, ça c'est quelque chose qu'on peut lire sur l'ensemble du corpus et ça rejoint une analyse que Thierry Lefebvre a déjà faite depuis quelques temps sur un film tout à fait particulier qui concerne la pneumologie, où Thierry démontrait en fait que le triangle de la production dont j'ai parlé tout à l'heure, le référent médical Éric Duvivier et le laboratoire, on pouvait la lire aussi comme une histoire où la pneumologie entre en crise suite à l'arrivée des antibiotiques. La tuberculose a tendance à disparaître, qui est en fait la maladie identitaire de la spécialité. Il va falloir que ça change et le film va être un élément pour mobiliser, pour thématiser, mais aussi pour promouvoir par le médecin référent. L'idée, ben, il faut passer de la physiologie qui s'occupe de la tuberculose vers la nouvelle pathologie phare de la pneumologie qui sera le cancer du poumon. Et donc l'hypothèse ici, comme regarder de l'autre côté, c'est-à-dire par le côté plus quantitatif, consiste exactement à dire oui, je pense que c'est quelque chose qui fonctionnait aussi comme ça. C'est-à-dire Éric Duvivier n'accompagnait pas seulement avec ses films des évolutions de la structure des connaissances médicales, mais c'est un élément qui va permettre à certains acteurs à l'intérieur d'avoir un argument audiovisuel pour transformer, pour dire c'est ça qu'il faudrait faire et pour montrer que la cardiologie, oui, va devenir une vraie spécialité à part entière et l'échographie est un élément fondamental dans l'identité de cette nouvelle spécialité telle qu'elle va se dessiner à partir des années 70-80. Bien. Donc à partir de là, il m'importe de regarder plus en détail trois films. Donc, je n'ai pas pris les tout premiers, le chirurgicaux. Je suis plutôt parti sur la période 70, qui, à mon sens, est le moment où c'est vraiment, ça se joue autour de cette idée de la naissance ou de la construction identitaire forte de la cardiologie. Cœur et vaisseau, image des sangs, cœur et magnésium, 78, et insuffisance veineuse chronique, 1988. Alors, quand on regarde ça, donc, le premier film, donc celui-là, on ne va pas le regarder en extrait. Cœur et vaisseau, image des sangs, 1973. Donc, ça fait partie d'une série de films autour de la sémiologie cardiologique. Donc là, on est vraiment dans un schéma d'un film d'enseignement, j'aurais presque envie de dire assez classique, c'est-à-dire c'est un film où on a bien notre image iconographique de départ pour dire on s'adresse à la communauté des médecins, cardiologues ou autres. Ce qui est notable, et c'est le premier élément que je voudrais détailler autour de ce point, c'est un film et c'est une série de films qui est entièrement un film d'animation. C'est-à-dire, c'est un film qui, du début à la fin, ne fonctionne que sur du schéma animé. Et donc, vous voyez qu'il y a des schémas qui sont des schémas classiques, anatomiques, avec la possibilité, du coup, d'y reconnaître. Un travail assez original, clair, sobre de représentation de l'hémodynamique qui est fondamentale pour comprendre les sons qui sont derrière, et une mise en image de ce qui est enseigné dans le cadre de ces films et ce qui est très compliqué à enseigner en médecine, c'est-à-dire c'est l'auscultation, c'est-à-dire c'est l'écoute des bruits normaux et anormaux. Alors, je reviendrai là-dessus. Dans un premier temps, ces films sont des films qui partent vraiment de la structure vers ce qu'on entend et l'idée qu'on va transcrire sous forme de ces petits schémas ce que vous entendez. Donc, il y a une espèce de traduction entre l'audible et ce qu'il faudrait en tirer en termes de conclusion analytique. Il y a d'autres films après, autour de la mitrale, qui sont un peu postérieurs à cette première série images des sons, qui sont tout à fait intéressants, parce que la première image, c'est une image plutôt de synthèse, et on n'a que le bruit. Donc on voit qu'il y a tout un temps de réflexion autour finalement d'un sujet qui est quand même assez difficile, c'est-à-dire comment faire un film sur quelque chose où il n'y a rien à voir, puisqu'il y a tout à entendre. Et en même temps, enseigner l'écoute à un médecin, c'est difficile parce que vous n'êtes jamais sûr qu'il entend la même chose que ce que vous voulez bien qu'il entende. Enseigner l'auscultation est extrêmement compliqué en médecine. Et donc là, c'est la tentative d'une transcription du son sous forme d'image. C'est quelque chose où on voit que plus cette série avance, plus les dessins vont prendre des caractères un peu abstraits, des caractères plus artistiques. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire une évolution vers... toute une partie de recherche esthétique sur le fonctionnement de ce film. Alors, ça nous renvoie à une citation de Jacques Shields. Décidément, j'en ai fait un petit peu le leitmotiv de mon travail d'aujourd'hui, où il dit tout à la fin de son traité, « Il n'est pas de question technique, si compliquée soit-elle, qui ne puisse s'exprimer en schéma animé. » Et on a l'impression que Éric Duvivier, c'est l'illustration parfaite de cette idée-là, parce que c'est précisément à cette technique-là qu'il va avoir recours pour la transmission des sons. Alors, deuxième film, deuxième thématique, Cœur et Magnésium. Donc, Cœur et Magnésium, ce genre de film, c'est ce que disait Thierry tout à l'heure pour le premier film. C'est le genre de film où, a priori, si vous n'êtes pas étudiant en médecine avec ça au programme, ce n'est pas le film que vous allez voir tout de suite en vous disant « voilà ce que j'aimerais bien regarder ce soir ». Et pourtant, quand on regarde, ce qu'on voit, c'est qu'on y trouve les trois éléments, c'est-à-dire une partie chirurgicale. Il y a l'hôpital qui commence à faire son apparition, mais il reste un travail fondamental autour des schémas animés, c'est-à-dire il va y avoir intégration de vue réelle progressivement, donc on sort un peu de cette animation complète, mais l'animation va y occuper une partie centrale pour expliquer notamment le fonctionnement des solutés de Lyon, c'est pour ça qu'il y a le pouce seringue dans le cadre du fonctionnement du cœur. Alors, dans Cœur et Magnésium, il y a une image qui se trouve aussi sur l'affiche, et ça tombe bien, on est vraiment synchro là-dessus sans être consulté au départ, parce que c'est là aussi qu'on voit, d'une part, sur les deux premières images, à quel point l'animation va permettre d'inscrire un phénomène de pompe ionique et la superposition d'un certain nombre d'interprétations de potentiel, quelque chose qui, en dehors du schéma animé, on ne voit pas comment ça aurait pu fonctionner. Et en même temps, le déroulement dans le temps ajoute la possibilité de jouer sur l'évolution chronologique de ce phénomène-là. Et en même temps, quand vous regardez ces images-là, vous commencez à avoir un soupçon de l'importance que prend la place, la qualité du dessin animé dans ces films d'enseignement d'Éric Duvivier. Et s'il nous a dit ce matin qu'il y avait jusqu'à 15 dessinateurs employés par Science Film, quand on regarde l'image, on comprend bien le soin et l'importance qui est donnée en fait à cette technique-là, en particulier dans un phénomène où il y a au centre, à mon avis, vraiment le souci de la transmission d'une connaissance et l'idée que le schéma animé est fondamental. Ce n'est pas parce qu'il y a un souci de transmission qu'il n'y a pas souci de faire un film. Alors, des tout petits détails, mais quand vous regardez ne serait-ce que ces deux images, et vous regardez le soin du cadrage qui est apporté sur un écran qui vous montre des données chiffrées de potentiel tout bête, Alors, dernier exemple, insuffisance veineuse chronique. Ce film est très tardif, mais en même temps, je trouve que c'est un film qui donne vraiment la pleine mesure de l'aboutissement de l'œuvre d'Éric Duvivier, parce qu'on y trouve réunis un certain nombre d'éléments qui, là, pour le coup, sont de l'ordre du film d'enseignement, c'est-à-dire des signes cliniques. On y voit apparaître toute une partie autour de l'animation, comment ça fonctionne. Mais ce qui est peut-être le plus frappant dans ce film-là, à mon sens, c'est les transitions extrêmement travaillées entre les vues réelles, les vues animées et les données plus scientifiques comme les écrans de mesure, par exemple. Et alors, si j'insiste dessus, c'est que je pense que c'est vraiment un élément, et là aussi, moi je suis admirable devant la maîtrise de ces films que vous avez développés à travers le temps, et je dis ça avec beaucoup de sincérité, parce que je pense que le plus difficile dans ces films-là, c'est de passer d'un genre de séquence à une autre. C'est là qu'on peut perdre son spectateur, et les transitions sont extrêmement travaillées. Alors, je vais essayer de vous en montrer une, par exemple. Donc ça, c'est la Cinémathèque à Rennes, dont Thierry parlait ce matin. Donc déjà, voilà, partie sonore. Hein, on voit que le film expérimental est quand même passé quelque part par là. Là, par exemple, vous allez voir la transition. Donc, on a un écran.
Un ulcère jambier peut être d'origine veineuse ou artérielle. L'absence de couleur sur l'écran symbolise une fausse piste. Ici, le fonctionnement valvulaire peu perturbé à l'auscultation Doppler n'est pas une preuve que l'origine de l'ulcère ne soit pas veineuse. La pression artérielle normale à la cheville indique qu'il n'y a pas d'insuffisance artérielle. C'est l'insuffisance des veines perforantes sous l'ulcère qui sont la cause de la maladie. Une fois une insuffisance artérielle écartée, c'est surtout la clinique qui assure le diagnostic. Alors il s'agit d'un ulcère malléolaire interne, qui est entouré d'une zone édémaciée,
dans la partie sémiologique,
un peu rouge, inflammatoire. Et on peut voir alentour une dermite ocre, qu'on voit particulièrement bien ici, et une maladie variqueuse qui est très peu visible en position couchée au niveau de la jambe, mais qu'on voit très bien, par contre, au niveau du pied sous l'ulcère.
Voilà la manière de...
Le retour du sang est assuré par des veines munies de valvules qui empêchent le reflux du sang vers le bas. La contraction musculaire provoque une chasse de sang vers le haut. En l'absence de valvules, cette contraction musculaire chasse le sang vers le bas et vers la peau, où se produisent des perturbations de la microcirculation.
Donc des séquences d'animation longues, hein, elle fait plus d'une minute celle-là.
L'appareil de Doppler est un émetteur-récepteur d'ultrason qui donne une estimation de la vitesse et de la direction du globule rouge, c'est-à-dire du flux sanguin. Un appareil de Doppler peut être utilisé
pour une autre transition,
non spécialisé, pour mesurer la pression. Et de quoi est-ce que vous avez peur?
Écoutez, mon grand-père est mort d'une gangrène. Et je sais pas, j'ai J'ai l'impression que peut-être que c'est le début de cette maladie.
Une bonne communication entre malades et médecins transmettra réellement les messages importants. Cela permettra d'éviter les fausses pistes thérapeutiques et de choisir le traitement le mieux adapté à la demande du patient.
Voilà donc un petit extrait de ce dernier film. Bien, donc à partir de ces trois cas, il me semble qu'il y a quelques principes qui émergent de là. La première, c'est ce qu'on voit dans cette séquence à trois, c'est le soin des passages d'une mise en abîme dans un premier temps vers une situation de consultation réelle. Et c'est un élément où on voit aussi l'intégration forte de toute une partie de son œuvre, où il va travailler sur la relation médecin-malade dans différents domaines. Et donc la cardiologie va l'intégrer dans sa troisième phase. Hein, il y a une phase chirurgie, une phase vraiment identitaire à mon sens. Et puis il y a une partie sur la pratique où la place du malade va devenir importante. Alors ensuite, il y a la partie film d'enseignement, tout simple, comment montrer. Et donc, on voit que bon, c'est des films qui sont très dénudés, On va vraiment à l'essentiel, il ne reste plus grand-chose. Hein. Quand on regarde, les plans cliniques sont presque composés comme des plans de dessin. Juste une main qui montre, une jambe. Et en même temps, il y a toujours une petite dérive qui rappelle cet autre Éric Duvivier, du film expérimental, du film d'auteur, autre que pur film d'enseignement. Utilisation, par exemple, des couleurs pour montrer, comme ce qu'on a vu dans l'introduction du premier film, il y a des choses qu'on ne faisait pas ou qui n'existaient pas autrefois et qui viennent aujourd'hui. Donc là aussi, utilisation de toutes les possibilités de mise en scène et de montage possible pour accentuer le côté de la transmission. Là encore, un jeu où on voit apparaître dans un premier écran de fond, où on a l'impression de voir presque une peinture abstraite, un écran qui arrive, où il y a déjà le médecin présent, et hop, on passe à la prochaine séquence. Donc un travail sur les transitions qui est, à mon sens, excessivement soigné, pensé, construit, sens où moi je revendiquerais avec l'intitulé de Thierry de ce matin, vraiment l'idée que c'est un cinéma d'auteur, même si c'est même dans sa partie très factuelle, très enseignement, et j'ai volontairement pris les films où a priori il n'y aurait pas ça. Parce que ça soit dans un film comme Concerto mécanique pour la folie, qui a de l'auteur, c'est à la limite pas très étonnant. Mais qu'on le retrouve jusque dans les petits détours des films d'enseignement, c'est plus intéressant. Donc la question, à mon avis, qui joue, c'est transition, transmettre. C'est-à-dire, ces transitions sont tout un travail, une réflexion sur comment transmettre. Et il me semble que les films sont en 150 ans d'expérience. La question qui se pose de manière fondamentale pour ces films et sur laquelle je pense que c'est une piste à creuser, c'est la question de la coopération entre médecins et cinéastes, parce qu'on a quand même un peu l'impression que ça se passe toujours bien, ce qui, dit de loin, à mon sens, n'est pas évident. Donc ça, c'est des choses où j'aimerais bien aller plus loin dans les interrogations, les entretiens avec Éric Duvivier, mais je pense qu'il faut partir sur des cas précis pour savoir qui, comment ça s'est passé, etc. Alors qui, on peut commencer par faire une liste, hein, des médecins, des lieux. Je pense qu'il faut vraiment faire un travail analytique très sérieux sur le corpus pour savoir qui sont les médecins, quelle est leur place dans la corporation. On voit que ce n'est pas une entreprise purement parisienne. Hein. On sent bien qu'il y a le côté forain des diffusions, il y a le côté forain et tour de France aussi dans les lieux où il va aller faire ses images. de Lille à Marseille, à Lyon, au Havre, à Paris. Il y a Paris, mais il n'y a pas que Paris, il y a aussi des lieux hors France. Et j'avais encore un petit commentaire sur le système de diffusion dont on a déjà parlé. Je pense que ce qui est fondamental, c'est de comprendre les liens avec un mouvement autour médecine-cinéma. On voit bien que c'est Sandoz qui sponsorise, et donc il y a quand même la notion d'une commande, même si Eric Duvivier la refute de manière forte, elle est là d'une certaine manière. La question, c'est le rapport entre le mécène ou le commanditaire et celui. Et je pense que Eric Duvivier est très soucieux de garder son autonomie à cet endroit-là. Et l'idée que Science Film, c'est quand même aussi une boîte de production, une société de production qui fonctionne comme une vraie structure industrielle propre, c'est-à-dire avec son catalogue, sa diffusion et tout un système qui se groupe autour. Donc, dernier élément, donc ça c'est un élément de ce fameux catalogue audiovisuel santé, c'est qu'on y voit très bien que quand on regarde, on ne voit plus que les noms des médecins. Donc l'auteur devient quasiment ce que j'appellerais un référent médical. Il y a le producteur Art et Science, et encore c'est pas Science Film, c'est Art et Science. Et le nom d'Éric Duvivier, il figure pas de tout. Donc ce qui montre aussi à quel point ça va être parfois difficile, si on n'a pas tout le contexte des éléments, difficile de contextualiser ces films. En même temps, c'est très intéressant, il y a un petit résumé, il y a des critiques, bonne révision, il y a des critiques qui sont bien plus critiques que celles-là, donc là j'en ai pris une assez classique, et lieu où on peut commander le film, qui nous renseigne en fait sur le laboratoire qui sponsorise le film, et information très intéressante, quel est le public a priori concerné par ce film. Donc, strictement réservé au corps médical et vraiment un film d'information, d'enseignement pour les études médicales, les omnipraticiens et les spécialistes. Donc, c'est bien l'idée de ces tours forains médicaux d'Éric Duvivier, son système de diffusion. Donc, l'idée, c'était de vous montrer que ces films relèvent, même dans la partie la plus factuelle et la plus enseignement, à mon sens, véritablement d'un cinéma d'une très grande qualité et où on intègre ces éléments de plus artistiques et plus libres. Et deuxième élément, c'est que c'est un système qui va bien au-delà de la production de 700 films. C'est véritablement un système du vivier de production, de diffusion, pensé dans son ensemble, même avec une boîte de tirage des pellicules, etc. Donc c'est presque un petit empire de production, diffusion à lui tout seul. Et ça aussi, à mon avis, c'est assez intéressant en tant que création, cette fois-là, non pas de films, mais en tant de système et de dispositif de production et de diffusion. Je vous remercie de votre attention.
Merci Christian. Donc je crois que tu as très bien montré, c'est les problèmes qu'on soulèvera à Nancy, évidemment, hein, qu'il y a vraiment impossibilité de dissocier le fond de la forme dans cette production Éric Duvivier, et que le style, l'importance du visuel et l'illustration sonore, hein, je crois que là, dans ce que tu as montré, l'alternance... parfois abrupte, hein, entre la musique électronique et puis de la musique baroque, etc., montre qu'il y a toujours une composante de recherche et une inscription dans une esthétique qui démontre le besoin de déployer tous les moyens du cinéma, le son, l'image, la couleur, la qualité du décor, les images qui s'emboîtent. Et donc une véritable ambition, hein, qui n'est pas seulement une ambition scientifique, mais une ambition esthétique, et les deux, évidemment, allant de pair. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions au sujet de l'intervention de Christian ? Oui, France ?
Moi, je voulais juste savoir, dans les films, sur le deuxième, je ne me rappelle plus de son titre, est-ce c'est l'extrait qui a été passé, est-ce que c'est la...
reconstitution, ou est-ce que c'est vraiment filmé, c'est vraiment là un médecin et sa patiente, ou est-ce que ce sont des acteurs qui jouent?
Non, là c'est pas là, des c'est acteurs. Là c'est
vraiment, d'accord.
Là on n'est pas dans le tableau de Balint par ouais. exemple, où on a une reconstitution. Là, on est vraiment, c'est des vues réelles de consultation.
D'accord.
Alors, je dis pas qu'ils sont quand même, c'est pas du réel dans le,
oui,
mais c'est
préparé,
tout le problème de tout
ouais.
documentaire de toute façon. C'est jamais la chose elle-même.
Bien
mais,
sûr, bien sûr.
Mais c'est pas fictionnarisé dans le sens où on emploie des acteurs autres. Mm. Là, c'est le médecin, la consultation, même si elle est rejouée devant la caméra, mais c'est des acteurs profanes.
Et sur cette même scène, il y a un changement de point de vue où ça reste filmé comme ça, dans le dispositif. C'est-à-dire non. qu'on a le médecin de dos et le patient de face, donc avec, je suppose, des stratégies d'identification, et puis, mais qui quand même retourne en quelque sorte l'argument d'autorité habituel des films médicaux. On a plutôt un médecin de face qui délivre son savoir ou délivre un diagnostic, etc. Et là, au contraire, donc ça va dans le sens de ce que tu disais, de ce passage, cette transition vers la relation, une véritable chirurgie, pour le coup, de la relation entre le médecin et le patient. Et je trouvais que ça, c'était assez frappant par rapport à un certain nombre de films médicaux qu'on a pu voir dans d'autres
Non, je pense que c'est un élément qui parcourt tout son corpus. Hein, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudra creuser, à mon avis, parce que c'est loin d'être évident. Autant pour le corps médical que pour le commanditaire, de revendiquer quand même une parole forte du patient dans la mise en scène, dans l'expression, etc. Et c'est un élément que je trouve limite subversif pour ce genre de film, et en même temps, il est très présent. Donc, je trouve que ça fait partie de ces paradoxes, et c'est comme un peu les films psychiatriques expérimentaux. On se demande quand même, au fond, quand on les voit la première fois, mais qu'est-ce que ça fait dans la cinémathèque Sandoz ? Ou comment Sandoz a pu payer pour ça ? Et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans son œuvre-là qui cherche aussi à prendre un point de vue d'auteur aussi, d'une certaine manière, même par rapport à la relation, la place du patient et tout ça. Alors, c'est en même temps, je pense qu'Anne reviendra là-dessus, c'est ambigu, parce qu'en même temps, il y a des schémas très traditionnels, etc. Donc c'est ambigu, c'est complexe, mais il y a de ça.
C'est vrai que comme ça traverse vraiment le corpus, donc moi j'ai retrouvé ça aussi sur les films que j'ai étudiés, et particulièrement, moi je vais le dire tout à l'heure, particulièrement à partir... effectivement, du milieu des années 70, quoi. Ouais. C'est-à-dire, il y a les années 60, les quelques films, j'en ai pas beaucoup des années 60, c'est encore le professeur, même en blouse blanche, etc., qui parle face caméra. Il n'y a même pas forcément de patient. On ne voit pas forcément physiquement le patient. Et à un moment donné, pof, ça se retourne. Alors, on a du profil, hein, effectivement, le patient et le médecin ensemble. Et ben, de temps en temps, effectivement, plus on avance, plus on a le médecin pris de dos. Et ça va même très très loin, puisque bon, le film des années 90 que j'ai étudié, donc là, le médecin bon, qu'on voit assez souvent de dos, pas toujours, parfois de profil, parfois aussi de face, mais il se pose plein de questions, quoi. C'est-à-dire, lui, il n'est absolument plus sûr de son propre savoir ni de ses propres traitements. Et il le dit face à ses patientes. Donc c'est assez intéressant, effectivement. Ouais. Assez subversif, au fond, comme tu dis, effectivement, ce changement de statut du médecin qui devient très, très humain, ouais. Mais en même temps, du coup, bah, qui perd son autorité, sa crédibilité.
Une remise en question ouais. radicale, permanente, qui est assez étonnante. Alors à la limite, on peut se poser la question si précisément ça passe, parce que c'est diffusé en milieu relativement fermé et médical. Donc, c'est un discours qu'on peut avoir entre soi, mais pas à l'extérieur. Mais...
Dans ce film, précisément, bon, je pense qu'il est pour les médecins, les praticiens, hein, médecins généralistes, omnipraticiens, mais dans le film, le scénario lui-même, le médecin le dit face à ses patientes, avec ses patientes. À la limite, ses patientes y croient plus que lui. Donc, c'est à un moment donné, il y a une scène où la patiente y croit plus que le médecin. Donc c'est assez
assez étonnant.
Effectivement, c'est assez curieux et c'est assez perturbant.